Allez-y.
Moi, j'ai une question qui me prend depuis ce matin, je ne sais pas si je vais bien la formuler. Mais dans quelle mesure tous les débats... Nicolas Mourlon, pardon, je suis... Il y a deux jours, j'étais directeur d'un institut de formation dans le domaine de l'environnement et je suis directeur des territoires du Val d'Oise. Et je me demande en... dans quelle mesure toutes nos réflexions sur l'alimentation, même la façon dont nous on réceptionne ce qu'on nous dit, est liée au fait que nous sommes français. Tout à l'heure, on avait un monsieur qui travaille à l'UNESCO, la cuisine française, elle est au patrimoine mondial. Enfin, je ne sais plus comment c'est un stream, mais on a réussi à...
Le repas à la française.
Donc en fait, il y a plein de gens dans le monde, même dans des pays développés, mangent de manière très simple, des choses très répétitives et très monotones tous les jours, sans que ça soit une activité sociale majeure. Enfin, on a une très grande particularité. Et du coup, enfin... par exemple, les dispositifs qui sont évoqués là, sur la map, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit chez nous uniquement? Je pense que ça se voit ailleurs, mais est-ce que ça se voit ailleurs de manière aussi massive? Est-ce que... Est-ce que même le lien que l'on peut faire entre l'alimentation, l'agriculture, ce qui se passe sur les territoires, est-ce qu'on mange, est-ce que dans les autres pays, on le fait aussi, ce lien-là, enfin, ou est-ce que c'est pas juste magique, on va au supermarché, on a un truc là, enfin, j'avais un peu une interrogation sur, parce qu'après, si on veut massifier, on veut s'interroger sur les problématiques d'environnement, c'est bien mondial, le sujet, c'est pas avec dinguerie.
Oui, je peux donner quelques éléments de réponse. Alors, partout dans le monde, l'alimentation reste en fait un fait social majeur. Ce qui peut être spécifique à la France, c'est cette patrimonialisation qu'on a dans notre rapport à l'alimentation. Et encore, on n'est pas le seul pays à le faire. On pourrait parler de l'Italie, on pourrait parler de certains pays d'Asie, etc. Ça, c'est le premier point. Sur le fait de savoir... Alors, tous les systèmes... La map en France existe sous une grande diversité de variantes à travers le monde, y compris dans les pays du Sud, notamment on a beaucoup de choses en Amérique du Sud qui sont développées autour de liens directs. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai expliqué, cette idée de reconnexion, elle fonctionne avec aussi l'idée de se passer des gros acteurs intermédiaires. En fait, si vous allez dans les pays du Sud, ils existent, ces gros acteurs intermédiaires, à travers des formes, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là, mais de capitalisation de l'agriculture qui existent, alors en Amérique latine tout particulièrement. Donc ça existe également. Sur les politiques alimentaires urbaines, par exemple, on les trouve très majoritairement dans les pays du Sud. Donc sur la diapo, j'avais cité Dakar, Medellin, par exemple. J'ai cité aussi New York, Brighton, il y a Détroit, il y a plein de villes du Nord. Il y a des projets avec le Grand Paris aussi. Donc voilà. Mais il y a aussi cette problématique dans les pays du Sud. Donc il faut pas se dire que ça relève uniquement d'une sorte de trajectoire de développement qui ferait que, une fois que nos sociétés sont arrivées à cette plénitude et donc au gaspillage, etc., on se dit, bon, maintenant, il faut revenir en arrière. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe, parce que, tout simplement, en fait, cette problématique de l'emprise capitalistique de la production alimentaire, elle existe. Il y a, par exemple, en Asie, il y a toute la problématique, justement, de ces questions de semences paysannes et de l'accès aux semences. C'est d'abord l'Inde, en fait, qui a mis ce sujet à l'agenda, avant les pays du Nord. Donc, ces problématiques-là... Moi, je n'ai pas travaillé sur les pays du Sud, donc je n'irai pas plus loin que ça. Mais il faut vraiment avoir en tête que ces problématiques-là sont des problématiques qui associent pays du Nord et pays du Sud. Toute la critique, par exemple, anticapitaliste, c'est clairement ça.
Et pour le coup, à travers des vecteurs très militants, si on prend... l'Amérique latine. Okay. Mais maintenant aussi sur l'Asie, c'est assez intéressant de voir ça. Alors,
oui, je me représente du coup Vincent Chéry, DDTM du Var, et ancien ingénieur agro. Alors ancien, non, toujours ingénieur agro. Mais en fait, j'en ai pas un très bon souvenir. Je vous explique. Je voudrais, enfin moi quand j'ai fait l'agro en 91, j'ai bouffé du nitrate, des pesticides, de l'agriculture intensive, de la Primolstein, race, hein, vous connaissez, jusqu'à la lie. Ah, vraiment. Donc j'en suis encore un peu en pétard contre cette institution, qui était l'agro de Paris, enfin qui était l'agro de Paris. Parce que vraiment, voilà, les bio, on les considérait comme les petits jardiniers originaux, etc. J'ai entendu M. Rastouin, tout à l'heure, raconter à peu près la même expérience. Demain, donc, je vais retourner à l'agro pour aller toit, etc. Ma femme, donc je prends le coup, ma femme m'a dit, mais c'est beau ce truc. Et j'ai dit, mais tu vois, tu parles comme ceux d'il y a 30 ans qui nous enseignaient l'agro, qui disaient, mais l'agriculture bio, c'est vraiment... un truc, oui, de bobo, si on peut dire, à l'époque. Est-ce que aujourd'hui les écoles d'agriculture, d'agronomie s'adaptent et enseignent de manière sérieuse, de manière posée, mesurée, toutes ces évolutions, ou est-ce qu'elles ont encore 25 ans de retard?
C'est moi qui se
formation sur l'agriculture urbaine
dans Oui, mais d'une façon générale, la question de la formation, aussi bien l'enseignement technique agricole que dans l'enseignement supérieur, a fait l'objet d'un volet complet de la loi de 2014, hein, autour du produire autrement, enseigner à produire autrement. Alors ça ne veut pas dire que ça se fait partout, mais enfin il y a eu une vraie impulsion politique et une révision assez complète des programmes, alors d'abord dans l'enseignement technique, ensuite, dans l'enseignement supérieur, en lien avec plusieurs programmes de recherche qui ont été lancés à l'INRA autour de ces questions-là. Donc, tout ça prend du temps. Mais honnêtement, je crois qu'on peut dire qu'en 20 ans, ça a quand même pas mal changé, hein, dans l'enseignement supérieur et dans la recherche, avec d'ailleurs des tensions très très fortes, hein, il ne faut pas se le cacher. Il y a une vraie... Les débats et les tensions qu'on évoque ici traversent les communautés scientifiques. Hein, sauf que quand même le renouvellement de génération provoque des effets assez puissants, parce que les jeunes chercheurs sont plutôt plus capés que la génération précédente. Hein. Ils ont tous plutôt, non seulement un doctorat, mais plus deux ou trois post-docs. Ils ont une vraie autonomie de pensée par rapport... si les choses bougent... Enfin, vous le verrez demain matin. Les deux dernières, et Sophie va répondre aux deux en même temps.
Vous avez une réaction, une question, quand vous avez parlé du dépit, en fait, des militants sur le fait qu'Aris... fasse la promotion à 900 000 de pâques. Peut-être qu'ils se sentent dépossédés effectivement de leur combat, mais n'empêche qu'ils ont aussi gagné le combat. Ça, c'est une première chose. Parce que, à un moment donné, pour atteindre un niveau d'échelle qui puisse amener peut-être vers le scénario de cohabitation qu'évoquait M. Rastouin, il faut quand même aussi des acteurs de poids et des effets de volume. Est-ce que cette dimension-là, entre les militants qui ne sont pas contents d'avoir gagné un combat, et puis les Monsanto et autres, est-ce qu'il y a des acteurs qui se positionnent sur quelque chose de médian comme ça, qui puisse être efficace? Et puis après, ça m'interpelle sur un côté peut-être un peu sociologique, enfin sur les ambivalences de la société, parce que peut-être qu'on a une dent contre Harris ou Monsanto, mais ça ne dérange pas du tout que Amazon, Google, Apple soient hégémoniques à un point absolument terrifiant pour ceux qui nous concernent. Donc c'est toujours une question aussi de par rapport... Si on veut atteindre un niveau d'homogénéité suffisant pour une population nombreuse, si possible totale au niveau mondial, l'effet d'échelle, il faut bien aller le chercher quand même. Et est-ce qu'il y a des acteurs qui sont positionnés justement sur cet effet qui serait favorable à un scénario de cohabitation sans être que dans la critique des groupes qui peut-être s'adaptent et font des efforts? Est-ce qu'il y a des acteurs de ce type-là?
Ma question portait plutôt sur la question de la déclinaison dans les politiques territoriales de ces évolutions. On voit, enfin, vous avez cité tout ce qui émerge sur les projets alimentaires territoriaux, les food concerns et ce genre de choses. Je me demandais comment les militants historiques engagés réagissent un peu à des formes d'utilisation de la souveraineté alimentaire, des circuits courts, qui est plutôt dans une forme de protectionnisme, peut-être de repli sur soi, de questions d'identité nationale, et puis aussi un peu les questions d'effets pervers entre de concurrence entre territoires. Il y a peut-être des précautions un petit peu à prendre quand on parle de politique locale de l'alimentation. Voilà, je me demandais comment, si c'était des débats.
Oui, bah, du coup, je vais répondre d'abord sur la dernière question. Donc, en effet, c'est un point de débat. Alors, notamment, il y a eu des travaux en Californie qui ont été menés sur des groupes militants qui avaient une approche, en fait, de ces questions de souveraineté alimentaire ou de locavorisme. Locavorisme, c'est quand on mange de manière privilégiée ce qui est fait localement. Et qui étaient donc des groupes militants qui étaient plutôt adossés à une version assez extrémiste, en fait, extrême droite, hein, clairement, de ces propositions-là. Donc, du coup, ça me permet de rebondir sur la première question en insistant sur quelque chose que je n'ai pas du tout mentionné dans l'exposé, mais parce que j'ai pas eu le temps de le faire et ça reste quelque chose d'important, c'est que ce militantisme, c'est un spectre très très large. Donc moi, à chaque fois, je vous ai dit les militants, et on a des gens, des organisations, des choses assez, des projets assez différents. Donc effectivement, on a cette dérive possible, en fait, donc, d'un usage protectionniste, par exemple, de la relocalisation. Donc on sait très bien qu'on a des groupes, y compris d'ailleurs dans les pays du Sud, qui réinvestissent ça dans des objectifs, notamment pour évacuer, par exemple, une aide agricole qui vient d'une migration, pour exclure dans l'alimentation certains types de produits. Donc on a ce spectre-là. Donc c'est un spectre politique. Ce qui me permet de répondre à la première question, à savoir, je dis les militants ne sont pas contents, mais vous avez en fait dans cette offre militante des militants qui sont ravis, qui disent mais c'est exactement, voilà, on avance quoi. Vous avez certainement entendu récemment cette discussion autour des petits pas. Faut-il faire des petits pas ou ne faut-il pas faire des petits pas? Ben, vous avez dans le monde militant des adeptes du petit pas, de la voie réformiste. Par exemple, dans le monde du commerce équitable, à partir des années 2000, Max Havelaar a dit ben, « nous, on va travailler avec la grande distribution parce que c'est la seule façon de faire avancer les choses, c'est de faire avancer les gros acteurs ». Bon, en fait, quand vous voyez le modèle économique de Max Havelaar, ça faisait du sens parce que eux, en fait, ils touchent des royalties sur le nombre de produits vendus. Donc ils avaient aussi intérêt. Donc ce n'est pas une critique que je fais, mais simplement je mets sur la table aussi des éléments pour comprendre cette stratégie-là. Mais vous avez Artisan du Monde qui a dit « mais ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre, il faut continuer la critique avec les gros acteurs ». Donc pareil sur le plan environnemental, vous avez FNE, c'est pour ça que j'ai dit « ils ne sont pas coutumiers de ce type d'affiches », ils sont plutôt réformistes, qui vont beaucoup travailler avec les acteurs économiques, encore WWF, encore plus va travailler avec la co-labellisation, par exemple FNE va beaucoup travailler avec les pouvoirs publics, Greenpeace va beaucoup être dans l'action choc, c'est ceux qui vont sur les centrales, etc. Mais ils travaillent aussi avec les acteurs économiques. Donc, en fait, voilà, c'est un monde très, très différent. Et quant à la critique sur les Amazon, elle existe, en fait. Moi, je travaille sur la consommation critique. Il y a toute une critique, en fait, de ces gros acteurs-là qui sont en train aujourd'hui de se placer aussi dans une situation de rente économique monumentale, qui sont des acteurs très capitalistiques également. Donc elle existe dans cette critique. C'est juste là, je vais parler essentiellement d'alimentation, encore que Amazon va sur l'alimentation. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est l'étape d'après?
Bien. Bah, écoutez, on va s'en tenir là.